en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Huit.
Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission en habit vert, consacrée à un homme qui nous a quittés le 21 octobre dernier, un académicien de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, François Chamoux. Il avait été élu le 3 avril 1981, à l'âge de 66 ans, au siège d'André Parot. Une séance de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, le 11 janvier 2008, rendra hommage à celui qui fut un des antiquisants français les plus connus à travers le monde. Mais aujourd'hui, pour Canal Académie, M. André Laronde retrace le parcours exemplaire de son ami et maître François Chamoux. Alors, M. Laronde, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes aussi membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et vous êtes professeur d'histoire grecque et directeur de l'Institut d'épigraphie grecque à la Sorbonne. Parmi vos nombreuses responsabilités, vous conduisez les fouilles en Libye, c'est-à-dire en Cyrénaïque et en Tripolitaine. Chantier d'ailleurs qui vous a été confié par François Chamoux, mais on y reviendra. Mais tout d'abord, expliquez-nous comment vos parcours se sont-ils croisés.
Eh bien, je voudrais dire en commençant que la disparition de François Chamoux, âgé, qui était dans sa 93e année, mais qui gardait une vitalité et une lucidité parfaite et qui continuait de travailler chez lui, cette disparition de François Chamoux a été pour moi, évidemment, un coup très rude, puisque j'avais travaillé avec lui et j'étais devenu son collaborateur, et d'abord son élève, il y a 41 ans. Et donc, cette disparition qui affecte le monde savant, qui affecte le domaine des lettres en général, m'affecte évidemment tout particulièrement. Comment avais-je connu François Chamoux ? Je l'avais rencontré en 1966, au printemps 1966, alors que jeune assistant dans une faculté de province, j'avais décidé d'entamer la préparation d'une thèse de doctorat. À l'époque, c'était ce qu'on appelait un doctorat d'État, dont la préparation durait une dizaine d'années. Et mon choix s'était porté sur Cyrène. Et comme François Chamoux était déjà à ce moment-là connu comme le spécialiste incontesté de Cyrène, eh bien, je voulais que ce fût lui qui dirigea mes recherches. Et je l'ai donc rencontré pour la première fois dans un petit bureau de l'Institut grec de la Sorbonne. Et depuis ce moment-là, nos relations n'ont fait que gagner en intensité et il a d'abord dirigé mes premiers pas dans le domaine de la recherche. Il m'a fait soutenir ma thèse de doctorat en 1977. Il m'a aidé à devenir professeur à la Sorbonne en 1983. Il a favorisé mon entrée à l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 2002. Et je dois dire que le travail commun que j'ai eu à effectuer à ses côtés, ne s'est jamais relâché jusqu'à ce mois d'octobre 2007.
Oui, c'est très émouvant d'entendre ça. Alors, on va revenir au parcours de François Chamoux et rappeler rapidement, donc, quel fut-il ?
Eh bien, le parcours de François Chamoux est un parcours modèle, éclatant et, je dirais, l'un des plus brillants que l'on puisse imaginer. Né en 1915, lycéen brillant, il avait réussi classique, c'est-à-dire premier de sa promotion, le concours d'entrée à l'École normale supérieure dans la promotion de 1934. Il a ensuite été de nouveau classique, premier au concours de l'agrégation de lettres classiques et à partir de là, sa vie a évidemment subi les vicissitudes de l'époque. Faisant son service militaire, il a enchaîné directement sur la Deuxième Guerre mondiale, qu'il a effectué très brillamment puisqu'il a été décoré. Et il a, à ce moment-là, été fait prisonnier. Il a passé une longue période de captivité en Allemagne, fort dure puisqu'il a été, à ce moment-là, fort malade. Il est rentré en France et Loin de se décourager, il a décidé de préparer le concours de l'école d'Athènes, cette école qui, en fait, porte mal son nom puisqu'elle est formée de jeunes chercheurs déjà confirmés, et il a rejoint l'école d'Athènes à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire un moment où la Grèce était ravagée par la guerre civile après avoir subi une occupation des plus éprouvantes dans les années 1941-1945. Et dans cette Grèce déchirée, dévastée, François Chamoux s'est mis au travail avec courage, avec détermination. Il a œuvré à Delphes et il en est sorti un très beau livre sur l'une des plus fameuses statues de l'Antiquité, le célèbre Oryge de Delphes, un livre qui a paru pour la première fois en 1955 et qui a été réédité récemment. Il a également travaillé sur un des grands chantiers de l'école française d'Athènes à Thasos. Il a également, à ce moment-là, engagé ses recherches sur la Libye. La Libye qui l'intéressait puisque son maître Charles Picard lui avait déjà, en 1936, confié de préparer un diplôme d'études supérieures, comme on disait, ce qui serait aujourd'hui plus ou moins l'équivalent d'un M1, sur la sculpture hellénistique à Cyrène. Et François Chamoux, qui s'intéressait beaucoup à la sculpture, y a gagné un intérêt pour cette région célèbre mais peu connue du monde antique, et où il n'a pu se rendre qu'au lendemain de la guerre avec l'aide de ses camarades de combat de l'armée britannique. Et c'est ainsi qu'en 1946 et 1947, il a effectué, alors qu'il était athénien, comme on dit, son premier séjour en Cyrénaïque, des séjours dans une Cyrénaïque dévastée elle aussi par la Deuxième Guerre mondiale, privée de tous les équipements qui aujourd'hui nous paraissent d'une grande banalité, penser qu'il n'y avait même pas de voiture et qu'il devait faire ses tournées pour parcourir le pays et le découvrir à cheval, dans un pays où d'ailleurs les ressources alimentaires étaient des plus exiguës, qui vivaient dans un état très misérable, et toutes ces difficultés matérielles n'ont pas découragé François Chamoux, qui en a retiré au contraire un grand profit scientifique et qui a amorcé à ce moment-là une carrière qui devait rester brillante jusqu'au bout. Professeur de lycée, puis assistant universitaire, il a soutenu ses thèses, car il en fallait deux à l'époque, en 1952. Il a été nommé professeur à l'université de Nancy et il a gagné la Sorbonne en 1960. Et il a effectué toute la dernière partie de sa carrière à la Sorbonne. Et finalement, il est entré à l'Institut, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, en 1981. Et il n'a cessé, jusqu'à ses derniers jours, comme professeur émérite et comme membre de l'Académie, de déployer une activité scientifique qui restait une activité de premier ordre.
Oui. Alors, comme vous le rappeliez, un de ses mérites a été de s'intéresser à la Libye, de remettre les fouilles de Libye en route, puisqu'elles avaient été arrêtées pendant de longues années. Je crois qu'il y a des Italiens s'y étaient d'abord intéressés.
Exactement. N'oublions pas que la Libye, de 1912 à 1943, a été une colonie italienne, après avoir été très longtemps une province un peu délaissée, il faut bien dire, de l'Empire ottoman. Et la Libye était une région assez fermée, dans laquelle l'autorité turque ne laissait pas facilement pénétrer les voyageurs. La Cyrénaïque en particulier, relativement isolée, était peu visitée, peu étudiée, et les fouilles italiennes de l'entre-deux-guerres, il faut bien le dire, ont été remarquables. Laissons de côté les aspects politiques de l'Italie du temps, qui n'ont pas lieu d'être évoqués ici, mais du point de vue archéologique, des archéologues de valeur ont travaillé en Libye et se sont livrés, à Cyrène principalement, mais dans d'autres sites de la Cyrénaïque, à des travaux de premier ordre. Ces travaux avaient été menés rapidement, peut-être trop rapidement, les publications n'avaient pas suivi, il y avait une masse énorme de documentation qui restait disponible, et c'est ce qui avait intéressé François Chamoux, qui d'abord s'est intéressé à la sculpture grecque en Cyrénaïque est d'une richesse et d'une qualité étonnante, et d'autre part, il s'est intéressé à l'histoire de cette région, et il en est sorti un très beau livre, sa thèse de doctorat, qui a été publiée en 1953, qui va être prochainement réédité, car c'est un livre épuisé. Ce livre, Cyrène sous la monarchie des Batiades, retrace l'histoire de la cité de Cyrène depuis ses origines, depuis sa fondation en 631 avant Jésus-Christ, jusqu'à la chute de la monarchie qui était régie par une dynastie qui était formée par les descendants du fondateur Batos, d'où le nom de dynastie des Batiades, une dynastie qui a régné deux siècles, de la fondation en 631 jusque vers l'année 440 avant Jésus-Christ. Ce livre est un classique. C'est un livre remarquablement écrit, d'abord. François Chamoux avait une qualité d'écriture et d'expression tout à fait exceptionnelle, et c'est en même temps un livre qui, pour une thèse, chose extraordinaire, n'a pas pris de ride en un peu plus d'un demi-siècle. Je veux dire par là que de nouvelles découvertes sont évidemment réalisées, que des connaissances nouvelles ont été acquises, mais elles s'insèrent dans le cadre lumineux que François Chamoux avait tracé et qui fait que cette monographie est un ouvrage de référence, non pas seulement pour la connaissance de Cyrène, mais pour la connaissance de la colonisation grecque, un mouvement d'ailleurs bien mal nommé, puisque Cyrène, comme toutes les colonies grecques, ne dépendait pas d'une métropole, mais était devenue automatiquement, ipso facto, une cité indépendante avec ses institutions, son armée, sa diplomatie, sa vie propre, et Cyrène a éclipsé de loin sa métropole, la petite île de Téra dans les Cyclades, et a été au contraire un des grands foyers de l'hellénisme à travers toute son histoire, de sa fondation au 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'arrivée des Arabes au 7e siècle de notre ère.
Alors d'ailleurs, dans ses fouilles à Cyrène, François Chamoux a été très important puisque c'est lui qui va, en 1967, fonder la mission Apollonia, qui va relancer réellement les fouilles là-bas. Et je crois que vous lui avez succédé à la tête de cette mission, 5 ans plus tard, en 1981.
Exactement. En réalité, François Chamoux n'a jamais fouillé à Cyrène, ni moi non plus d'ailleurs. La mission s'est concentrée sur le port de Cyrène, puisque Cyrène est une des rares cités grecques du monde colonial à se trouver à l'intérieur des terres, à 20 kilomètres de la mer environ. Et donc, il lui fallait un port qui soit son poumon, son lien avec le monde extérieur, c'est le port d'Apollonia. Ce port d'Apollonia avait reçu une première mission française conduite par l'égyptologue Pierre Montet, lui aussi membre de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, une fouille qui n'a duré que 3 ans pour des raisons diverses et qui s'est interrompue en 1955-56. Et François Chamoux avait dans l'idée de reprendre cette fouille. Il a entrepris des démarches à plusieurs reprises et qui ont abouti au démarrage d'une nouvelle mission en 1976, la mission française d'Apollonia, devenue depuis la mission archéologique française de Libye. François Chamoux en a lui-même dirigé les travaux personnellement de 1976 à 1981, année dans laquelle, avec beaucoup de générosité, il m'a confié le sort de cette mission, tout en continuant à suivre ses travaux de très près, avec beaucoup d'attention et en prodiguant des conseils extrêmement pratiques et utiles. Et donc, cette mission s'est donnée pour but d'étudier ce port de Cyrène, un port dont l'histoire est aussi ancienne que celle de la cité, et où on observe surtout des monuments de l'époque classique, de l'époque hellénistique et enfin de l'époque romaine et de l'époque byzantine. C'est dire que toutes les séquences de la vie du monde antique sont représentées dans ce port d'Apollonia et François Chamoux lui-même a participé très activement à ces travaux. Dès le matin, il était sur le terrain avec tous les membres de la mission et on peut dire que sa part, je dirais même matérielle aux travaux, a été extrêmement importante.
D'accord. D'ailleurs, vous avez évoqué ces fouilles déjà sur l'antenne de Canal Académie, donc je renvoie nos auditeurs à l'émission Point de Mire, André Laronde, un archéologue en Libye. Mais revenons donc à François Chamoux. Donc, comme nous pouvons le voir, il s'agit d'une carrière très riche, avec l'histoire de la civilisation grecque antique comme fil rouge. Mais ce qui est impressionnant aussi, et là où François Chamoux était étonnant, c'est qu'au-delà de l'historien à l'ampleur de vue admirable, il était aussi un excellent connaisseur de la littérature grecque, et particulièrement aussi de la poésie. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur cet aspect ?
François Chamoux, en effet, représente un type de savant rare à notre époque, car il a cultivé avec un égal talent et avec un égal succès toutes les branches de la connaissance du monde antique. Il était helléniste au sens plein du terme, et il a manifesté toujours un grand goût pour ce qu'il appelait les réalia, c'est-à-dire toutes les réalités du monde antique, qu'elles fussent matérielles, comme dans une fouille archéologique, ou qu'elles fussent d'ordre intellectuel. et notamment le domaine si difficile de la poésie grecque, qui requiert une connaissance excellente de la langue, une grande finesse d'analyse, une maîtrise parfaite du vocabulaire, une maîtrise parfaite aussi de la prosodie grecque, qui est un genre complexe. Eh bien, ce domaine de la poésie grecque a été un de ses domaines de prédilection, et notamment l'épigramme, c'est-à-dire de petits poèmes courts qui ont été très en vogue à l'époque hellénistique et qui ont été illustrés d'ailleurs par un grand poète de Cyrène, Callimaque, né vers l'année 310, mort vraisemblablement autour de l'année 245. Callimaque de Cyrène qui a commencé sa carrière dans sa cité natale, qui s'est ensuite transféré à Alexandrie et qui est resté l'un des plus grands noms de la poésie grecque. Et l'œuvre de Callimaque a été parfaitement analysée par François Chamou dans une série d'études qu'il a égrenées dans de différentes publications scientifiques et qui toutes jettent un regard neuf, car non seulement le texte est analysé avec précision, le style en est parfaitement démonté, mais les réalia du monde antique, les réalités du monde antique qui se font jour dans ces petits poèmes courts sont parfaitement mis en lumière, parce que François Chamou pouvait mettre ses œuvres en rapport avec l'histoire du temps, avec la religion grecque, avec tous les aspects de la vie antique, et donc il pouvait rendre à cette poésie savante toute sa force. Ajoutons que cette poésie est remplie de réminiscences et que, par exemple, les traces d'Homère, le fondateur et le plus grand des auteurs de la Grèce antique, eh bien, les traces de l'œuvre d'Homère, François Chamou était capable de les repérer et de les mettre en lumière avec une force de conviction remarquable, nourrie par une connaissance approfondie de tous ces textes.
Comme vous le disiez à l'instant, il s'intéressait donc à tous les aspects du monde antique, et entre autres aussi bien à l'art qu'à la littérature. Et donc à l'art, il s'est beaucoup intéressé à l'art, en particulier à la sculpture. Et vous allez peut-être nous dire en quoi ces travaux ont été particulièrement enrichissants.
Eh bien, François Chamou, dès ses années de normalien, avait commencé à s'intéresser à la sculpture grecque, et notamment à la sculpture grecque de Cyrène, qui, je le disais à l'instant, est très riche. François Chamou n'a jamais oublié cette branche de ses centres d'intérêt, et François Chamou a donné ce grand livre sur l'origine d'Elphes, mais il s'est intéressé plus largement à l'interprétation d'œuvres extrêmement célèbres, comme par exemple une fameuse stèle d'Athènes qu'on appelle l'Athéna mélancolique et dans laquelle on voit la déesse Athéna casquée, toute armée, appuyée sur une lance en contemplation devant une borne. Cette œuvre était restée longtemps énigmatique et François Chamou a pu montrer par une démonstration éblouissante qu'il s'agissait en réalité d'un monument commémorant une victoire dans un concours physique, dans un concours athlétique, et que, en réalité, loin d'être mélancolique, la déesse Athéna contemplait la borne à laquelle le vainqueur était arrivé le premier, sous sa protection bien entendu, puisque les Grecs considéraient qu'un succès remporté dans une épreuve athlétique n'était pas dû à la seule forme et à la seule préparation de l'athlète, mais à la protection des dieux. Je pourrais multiplier les exemples et les lecteurs qui le voudront retrouveront trace de ces travaux exceptionnellement riches et novateurs dans deux ouvrages. D'abord dans un petit ouvrage qui s'appelle « Sculpture antique du musée d'Athènes », qui a été publié sous le patronage de l'UNESCO et qui analyse avec beaucoup de force et avec beaucoup d'élégance un certain nombre d'œuvres d'art extrêmement connues. Et d'autre part, dans un grand livre intitulé « Art grec » paru il y a maintenant 40 ans et qui a mis l'accent parmi les premiers sur une dimension qui est aujourd'hui bien connue de tous ceux qui s'intéressent à l'art antique, c'est-à-dire à un art de la couleur. François Chamou se rendait compte parmi les tout premiers que les œuvres de sculpture qui nous sont parvenues décolorées, il faut bien le dire, conservent en réalité des traces de polychromie et qu'il est possible de retrouver ce qu'était la polychromie de ces statues antiques, qui devaient produire un effet tout à fait différent des œuvres inspirées de la tradition néoclassique qui nous présentent des marbres absolument blancs, éclatants, les marbres de l'Antiquité étaient éclatants, mais étaient rehaussés de couleurs. Et cela, François Chamou l'a très bien mis en valeur, et dans ce livre Art grec, il a donné en quelques pages un tableau parfait, je dois dire, de ce qu'est l'art grec dans toutes ses composantes, sculpture, mais aussi peinture, les vases grecs, également l'orfèvrerie grecque qui était remarquable. Tout cela apparaît à sa place dans cet ouvrage qui reste un livre de référence. C'est dire que François Chamou ne s'est pas seulement occupé de fouilles et de stratigraphie, mais qu'il a voulu saisir ce qu'était l'âme de l'art grec et l'âme de la civilisation grecque.
Oui, donc par la sculpture, la littérature, enfin tous ces aspects. Mais je voudrais que nous abordions maintenant un autre aspect du travail et de la personnalité de François Chamou. C'est malgré sa grande érudition, il apporta un soin particulier à mettre son œuvre à la portée de tous. Et ce fut le cas particulièrement avec deux livres qui là aussi font référence, que sont « La civilisation grecque à l'époque archaïque et classique », qui est paru donc en 1963, et suivi de « La civilisation hellénistique » paru en 1981. Tous deux publiés dans la collection des grandes civilisations chez Artaud. Et c'est un aspect qui est vraiment très agréable, je dirais, chez François Chamou, c'est que c'est accessible à tous.
Effectivement, ces deux livres ont fait date et continuent d'être utilisés. Ils ont d'ailleurs été réédités dans une collection de poche chez Flammarion, et donc tout un chacun peut les consulter, non seulement en bibliothèque, mais même en se les procurant. Ces deux livres constituent une fresque extraordinaire dans laquelle tous les éléments de l'histoire et de la civilisation grecque sont mis à leur place. Et naturellement, chacun de ces deux volumes s'ouvre par un exposé historique dense, concis, mais extrêmement précis et parfaitement informé, et se développe en une étude des différents aspects de la civilisation. Et là aussi, le rôle de François Chamou a été novateur. Par exemple, il a été l'un des tout premiers, avec un fameux historien de la Sorbonne qui s'appelait André Aymar, à développer l'importance de la guerre dans la vie grecque. Et son chapitre sur la guerre dans la vie du monde grec archaïque et classique reste aujourd'hui encore un travail de pleine actualité. Et je souhaite que ces livres connaissent de nombreuses rééditions, car ils apportent beaucoup à tous ceux qui veulent se familiariser avec tous les aspects de la civilisation grecque et ne pas en rester à ce qu'on appelle quelquefois d'un terme un peu péjoratif et dévalorisant l'histoire-bataille. L'événementiel y est à sa place, mais tous les grands aspects de la vie grecque sont mis en lumière d'une façon tout à fait exceptionnelle.
Oui, entre autres la place de la religion aussi.
La religion qui inspire énormément la vie grecque. Et François Chamou connaissait admirablement la religion grecque et il a analysé des ex voto de ses offrandes, humbles quelquefois, fastueuses dans d'autres cas, qui correspondent à des remerciements des hommes envers les dieux pour des bienfaits reçus, et ces ex-voto prennent quelquefois des formes étonnantes, comme par exemple un petit cochon retrouvé sur un relief à Édesse en Macédoine, et qui est un ex-voto à la suite du sacrifice d'un petit animal qui a été écrasé par un char processionnel, et donc ce thème en apparence mineur et, penserait-on, subalterne, permet à François Chamou de donner une image très vivante de ce qu'étaient les cérémonies religieuses de la Grèce antique. François Chamou, non seulement a eu le sens de la synthèse dans ses deux grands livres, mais il a également nourri un grand intérêt pour les historiens de la Grèce antique. Son travail sur Cyrène archaïque et classique est nourri d'une analyse très précise de l'œuvre d'Hérodote, qui nous retrace avec beaucoup de détails ce qu'ont été les débuts de Cyrène. Et au-delà même d'Hérodote, le père de l'histoire, comme on dit, François Chamou s'est beaucoup intéressé à d'autres historiens un peu négligés, comme par exemple Diodore de Sicile, un historien qui vivait à l'époque de César, et qui a longtemps été tenu dans le mépris. On a considéré que Diodore de Sicile était un compilateur qui aurait, selon une formule un petit peu méprisante, utilisé la méthode ciseaux et pot de colle, c'est-à-dire recopiant ça et là des passages d'œuvres antérieure à la sienne. En réalité, les travaux conduits par François de Chamou et par tout le groupe très brillant de ses élèves qui a poursuivi dans cette voie, je voudrais citer le nom d'une personne qui est disparue, qui était Pierre Bertrac, et le nom d'un savant très actif aujourd'hui et qui a beaucoup contribué à cette œuvre, Paul Goukowski, eh bien François Chamou a pu montrer qu'en réalité l'œuvre de Diodore de Sicile était nourrie d'une information parfaitement maîtrisée, parfaitement réfléchie, une œuvre qui mérite d'être mise à sa place. Et François Chamou a été le promoteur d'une réédition complète de l'œuvre abondante de Diodore de Sicile dans la collection des universités de France, dans cette collection qu'on appelle couramment la collection Budet, qui donne les textes grecs et qui donne une traduction, mais avec des commentaires, avec des notes, avec un apparat critique, c'est-à-dire une étude du texte et la présentation du texte le meilleur qui soit à partir des manuscrits. Et cette œuvre se poursuit aujourd'hui grâce aux élèves de François Chamou. Et François Chamou lui-même, ne l'oublions pas, a dans le tome 1 écrit une remarquable introduction sur Diodore de Sicile, sur l'homme et sur son œuvre. Et puis à côté de Diodore de Sicile, François Chamou s'est beaucoup intéressé à Pausanias. Pausanias, un auteur moins connu qui vivait à la fin du IIe siècle après Jésus-Christ. Pausanias qui nous a laissé une description de la Grèce. On le présente quelquefois un peu comme l'ancêtre des guides bleus. Quelle erreur ! En réalité, s'il décrit les sites pas à pas, Pausanias nous donne également des noces historiques des plus précieuses. Et nous avons, grâce à Pausanias, une information que nous ne trouverions nulle part ailleurs. Et François Chamou s'est beaucoup intéressé à Pausanias, et notamment il a donné un commentaire approfondi de la description d'Athènes et de l'Attique dans l'œuvre de Pausanias, toujours dans la collection Budet. Et c'est un travail qui reste un travail de référence, qui fait date.
Autre aspect du travail de M. François Chamou qu'il faudrait évoquer ici, c'est son rôle à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Donc, il y siégea de nombreuses années au sein de la commission administrative de l'Académie aussi. Donc, je vous laisse nous rappeler le rôle qu'il a eu au sein de cette Académie.
Eh bien, François Chamou, homme de science, a été aussi un homme d'action. Et dans toutes les institutions auxquelles sa très riche carrière l'a amené à participer, il a joué un rôle actif et ne s'est pas contenté d'être un observateur. À l'Académie, il a été membre, comme vous le rappeliez, de la commission administrative centrale. Il a présidé l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il est intervenu à de nombreuses reprises et il a imprimé son empreinte à la vie de cette Académie pendant un quart de siècle. D'autre part, n'oublions pas que François Chamou a été un professeur très actif à la Sorbonne, que durant ce temps, il a notamment dirigé la Revue des études grecques, une des grandes publications scientifiques françaises, que d'autre part, il a aussi tenu sa place dans la cité en participant à de nombreuses activités. François Chamou était un homme de conviction, c'était un homme de devoir, et il a considéré que sa participation à la vie de toutes les institutions auxquelles il appartenait, l'université, l'Institut de France, était pour lui une nécessité absolue.
Oui, alors pour clore l'émission, et avant de se quitter, je voudrais qu'on parle d'un autre aspect finalement de François Chamou. Le dernier sans doute, c'est aussi un excellent biographe, si on peut dire.
François Chamou étant un connaisseur approfondi de l'ensemble de la vie grecque et de la vie romaine, car n'oublions pas qu'il a travaillé aussi sur des sculptures de Glanum, du plateau des Antiques à Saint-Rémy-de-Provence, qu'il a travaillé également sur des sculptures de l'antique Césarée de Maurétanie, c'est-à-dire de la ville actuelle de Cherchel en Algérie. François Chamou a uni cette fine connaissance du monde grec et du monde romain dans une biographie remarquable, Marc-Antoine, dernier prince de l'Orient grec, une biographie publiée en 1986 et qui a connu un grand succès puisqu'elle a été traduite immédiatement en anglais, en allemand, en italien, en roumain. Et dans cette biographie, François Chamou a montré avec beaucoup de finesse et beaucoup de force de conviction comment ce personnage d'Antoine, que l'on présente généralement comme un soudard, un lieutenant de César, qui aurait été au fond adepte de la force brutale, qui était devenu ensuite l'amant de la fameuse Cléopâtre, eh bien comment Antoine était en réalité un fin politique et un fin connaisseur de la vie grecque qui s'était parfaitement imprégné de ce qu'était la vie de la basse époque hellénistique, c'est-à-dire des 2e et 1er siècles avant Jésus-Christ. Et cette biographie mérite d'être lue, mérite d'être méditée. C'est un ouvrage qui nous éclaire sur le lien profond, intime qui existe entre la vie grecque et la vie romaine et qui explique comment le monde romain a été l'héritier du monde grec et a contribué à transmettre la civilisation grecque. Là encore, François Chamoux a fait œuvre d'helléniste en toute la force du terme, et c'est pourquoi on peut considérer que, au-delà d'une disparition que nous déplorons, l'œuvre entière de François Chamoux est une œuvre qui durera et qui contribue encore aujourd'hui et dans l'avenir à faire connaître mieux et apprécier mieux ce qui reste une des grandes réalisations humaines, la civilisation grecque.
Merci beaucoup. Bien, je rappelle que Monsieur François Chamoux nous a quittés donc le 21 octobre à l'âge de 92 ans. Parmi sa très riche bibliographie, on retiendra quelques titres majeurs, sa thèse principale sur Cyrène sous la monarchie Batiade et ses incontournables volumes sur la civilisation grecque à l'époque archaïque et classique et la civilisation hellénistique ainsi que son Marc-Antoine, dernier prince de l'Orient. Monsieur Laronde, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Canal Academy et de nous avoir parlé de votre ancien confrère. C'est ainsi que se termine notre Habit Vert sur François Chamoux. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.